OK, évidemment, il est à Montréal en prévision du premier match de cette série aller-retour sénateur-canadien. Donc, jeudi, ce sera au Centre Canadian Tire, ici à Ottawa. Mais ce soir, ça se passe au Centre Bell, où on va aller retrouver le collègue Sylvain Saint-Laurent du quotidien Le Droit. Salut, Sylvain!
Salut,
écoute, veux pas, là, un match au Centre Bell, c'est toujours spécial. Et je pense qu'on peut aussi parler d'un match baromètre pour les sénateurs, même si le Canadien traverse une période un peu plus difficile.
Ben oui, écoute, il y a deux choses là, dans cette question-là. D'abord, oui, le Centre Bell, c'est spécial. Pas nécessairement pour ce que les gens pensent. Moi, j'ai toujours trouvé que l'ambiance de match au Centre Bell, on l'exagère un petit peu. T'sais, oui, il y a de l'ambiance. Mais je peux t'en nommer 6 ou 7 autres arénas où ça brasse autant le soir de match. Mais la grosse différence pour moi, puis on me l'a rappelé ce matin, c'est quand je suis rentré le matin d'un match, tout de suite, c'est plongé dans une ambiance de hockey, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs dans la Ligue. Ça, c'est là que Montréal et Toronto vont se démarquer. Puis c'est encore plus le fun cette semaine dans le cadre de la série aller-retour. Parce que, entre moi et toi, là, combien de personnes, en regardant le calendrier, en début de saison, puis en pensant aux sénateurs et aux Canadiens, aurait pu penser que ces deux matchs-là, au début du mois de décembre, auraient pu avoir un grand rôle à jouer dans une course éventuelle aux séries.
Ben oui.
Moi, j'aurais jamais deviné ça, mais on est rendu là, puis ces deux parties-là, si une équipe gagne les deux matchs, contre, a vraiment la chance de faire mal à son rival cette semaine-là.
Ben oui, oui, parce que si les sénateurs gagnent ce soir, là, à moins que j'ai mal vu le classement, au fond, ils rejoignent le Canadien, puis même... Officiellement, il dépasse le Canadien parce qu'il y aurait une victoire de plus et il serait au 8e rang, donc le dernier rang donnant accès aux séries de fin de saison.
Tu sais, c'est là que c'est vraiment intéressant, cette série de matchs-là. Puis effectivement, ta lecture est très, très bonne. Ce qui est le fun, c'est qu'après ça, la Ligue peut passer assez souvent, à mon avis, mais la chance tout de suite de voir un match revanche qui va permettre à l'équipe qui va perdre ce soir de récupérer justement le terrain perdu jeudi. Dans l'autre amphithéâtre, moi, je trouve que c'est vraiment le début d'une belle semaine, autant pour les sénateurs que pour le Canadien.
Oui, puis je sais que tu n'es pas le genre à t'emballer ou te déballer facilement, Sylvain, mais avoue que tu es quand même un peu impressionné de voir les sénateurs encore dans la course après 27 matchs.
Écoute, oui, je suis impressionné de voir qu'ils sont encore dans la course, même si c'est fragile. Je vais dire une chose, j'y pensais dans les derniers jours, puis on s'entend que les sénateurs, là, c'est une équipe avec plein de grosses carences, plein de grosses lacunes, donc une équipe assez faible encore. Mais j'ai jamais trouvé qu'une équipe faible aussi intéressante à suivre puis à regarder d'un jour à l'autre. Parce que malgré le fait que tu penses qu'elle va perdre la plupart de ses matchs, il n'y a jamais un match qui est perdu d'avance. Fait que moi, je trouve que c'est par rapport à mes attentes en début de saison, là, je suis vraiment comblé.
Ce qui est un peu rassurant, c'est que la défensive s'est replacée un peu, Sylvain. Elle est surtout plus robuste avec des gars comme Harper et Falk dans l'alignement, mais ça va être un bon test sur le plan de la vitesse ce soir.
Oui, effectivement. Tu as nommé Justin Falk et Ben Harper, c'est deux personnages là, qui sont très, très importants ces jours-ci. Falk, je le connaissais pas, ce Justin Falk-là, vraiment, avant qu'il soit réclamé au balotage. Il y a des gens qui m'ont dit, il a très bien joué en fin de semaine contre les Sharks. Il y a des gens qui m'ont dit de ne pas m'attendre à des miracles dans son cas, là, que c'était peut-être le mieux qu'il pouvait offrir aux sénateurs, puis qu'éventuellement, il va peut-être un peu réduire sa contribution, puis c'est peut-être plus un défenseur numéro 7 ou Ligue américaine. Mais je vais te dire une chose, par contre, c'est un personnage intéressant. On y a parlé après le match samedi. Regarde, c'est la grande constance. Plus un joueur est robuste, plus généralement c'est une personne une gentille et disponible et intéressante. Puis Justin Falk, c'est certainement ça. Fait que lui, bon, on va voir à quel point il peut rester dans le troisième duo puis continuer à jouer comme il joue contre les Sharks. Ben Harper, encore plus important. Les sénateurs, Pierre Dorion m'a longtemps dit que c'était un défenseur de top 4 en devenir. Je commençais à penser qu'il avait mal évalué. Il a joué quelques très, très bonnes performances récemment, dont samedi contre les Sharks. S'il peut jouer comme ça de façon constante, bien, peut-être que les sénateurs vont avoir une petite chance de conserver leur place dans la course aux séries jusqu'à là.
Oui, puis avec la blessure de Borowiecki, évidemment, l'arrivée de Falk, ben ça donne à tout le moins un peu de répit à un jeune comme Maxime Lajoie. On verra la suite des choses, mais moi, je suis content de voir, puis je sais qu'il y a une petite blessure aussi, mais je suis content de voir qu'on fait un petit pas de recul là pour s'assurer de... Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu veux pas perdre ta confiance à cet âge-là non plus, là.
C'est crucial. Puis on s'en était parlé, je pense, la semaine passée. Hein? On s'était dit, justement, moi je pense pas nécessairement qu'un retour complet dans la Ligue américaine soit c'est ce que Maxime Lajoie a besoin en ce moment. Mais c'est ça, tu sais, là, il prétexte une blessure pour lui faire passer quelques jours un petit peu en retrait, s'entraîner, travailler sur ses forces, autant mentalement que physiquement, puis éventuellement récupérer sa place quand il va y avoir une ouverture, puis à ce moment-là, peut-être là, revenir au niveau de jeu qui était en début de saison ou pas trop loin.
Bon, en attaque, on a l'impression, Sylvain, que finalement, Guy Boucher a trouvé des combinaisons qui lui permettent de bien utiliser ses quatre trios.
Guy Boucher, pour une rare fois, il se retient de changer ses trios en deux matchs à tout bout de champ. Moi, je vais dire une chose. Il y a un joueur dont on ne parle pas assez et qui, pour moi, fait une grosse différence depuis quelques semaines, c'est Zach Smith.
Hey, une chance qu'on ne l'a pas perdu au balotage. Hein?
Incroyable, hein? 7 points à ses 7 derniers matchs. Ça, c'est bon, ça va éventuellement diminuer un peu. Mais je pense que de la façon dont Zach Smith joue en ce moment, si les équipes de l'LNH avait pu anticiper ça, il n'aurait pas survécu au balotage au mois de septembre. Écoute, Zach Smith, là, moi, je pense que c'est un joueur qui a souffert du fait que ça se peut là, qu'un entraîneur t'aime trop dans les dernières années. Guy Boucher l'a utilisé dans tout plein de rôles différents sous prétexte que c'est un bon soldat qui peut faire un petit peu n'importe quoi dans une équipe. Mm. Mais je pense que dans certains rôles qu'on l'a utilisé, il n'était pas le bon joueur pour remplir ces rôles-là, puis ça lui a nuit. Moi, je pense qu'à 30 ans, Zach Smith, c'est un très, très bon quatrième centre. Puis c'est là qu'on le fait jouer en ce moment et c'est là qu'il brille. C'est sûr que 3 millions de dollars pour un quatrième centre, c'est cher payé, mais les Sénateurs peuvent se le permettre en ce moment parce qu'ils ont plein de joueurs recrues dans les premiers trios. Puis en ce moment, ça fait une grosse différence. Oui. Ça stabilise toute l'équipe complète.
Ben oui, parce que les jeunes ne coûtent rien. Puis un des jeunes qui m'impressionne, honnêtement, en l'absence de Pageau, c'était très important de le voir grandir dans la Ligue nationale de hockey, c'est Colin White.
Oui, mais Colin White, avec la saison qu'il a connue l'an passé, déjà, à 20 ans, on commençait à avoir des doutes à son sujet. On se demandait s'il était vraiment un bon choix de première ronde. Puis il l'est en ce moment. On le fait jouer au centre. En début de saison, je pense qu'il y avait des doutes au niveau des entraîneurs qui pensaient que c'était plus un ailier. Il est capable de jouer au centre. Voilà, évidemment, il paraît bien parce qu'il joue avec Mark Stone. Là, tout le monde y paraît bien avec Mark Stone. Mais écoute, moi, je te dis, en ce moment, là, la grosse différence, ce qui fait que les Sénateurs ont pu coller quelques matchs et puis gagner des parties à domicile la semaine passée, c'est la présence de Zach Smith dans les troisième, quatrième trio.
Je te parlais de Pageau il y a un instant. J'ai une petite pensée pour lui. Ça doit le démanger pas à peu près aujourd'hui, Sylvain.
Ben oui, mais écoute, tu sais, je veux dire, si les Sénateurs peuvent se maintenir dans le top 10, top 11 de l'association F, moi, si j'étais à sa place, si j'étais son entraîneur, je dirais, écoute, là, ça va pas mal, ça va bien, prends le temps de guérir, puis quand tu pourras revenir au jeu mi-janvier, début février, ben là, à ce moment-là, tu vas pouvoir avoir un impact, peut-être essayer de nous pousser par-dessus la ligne du 8e rang. On est loin de ça encore. Mais c'est sûr qu'il ne jouera pas contre le Canadien en deuxième moitié de saison. Mais au moins, tu sais, le fait que l'équipe gagne ces temps-ci, moi, je dirais sois patient.
Bon. Le dossier du jour dans la Ligue nationale, c'est le vote en faveur d'une nouvelle franchise à Seattle à compter de 2021-2022. C'est pas une surprise. Pour la jolie somme de 650 millions US, si on divise ça par 31, ça donne autour de 21 millions par équipe. Est-ce que c'est ça que Melnyk attend pour vendre son club, Sylvain?
Écoute, j'ai des contacts très limités avec M. Melnyk, comme tout le monde, fait que je peux pas le savoir, mais c'est certain que ça fait un petit chèque de plus. Alors, remarque que s'il vend son équipe en ce moment, il pourrait avoir facilement 500-550 millions. Fait que je sais pas si 20 millions fait une différence. Ça n'ira certainement pas aux finances des Sénateurs. Écoute, mais moi, en ce moment, la question que je me pose davantage puis pour laquelle j'ai pas de réponse, comment se fait-il que M. Melnyk ou que personne des Sénateurs n'est présent en ce moment à la rencontre des gouverneurs?
Ben oui.
Ça paraît très,
ça, c'est
très
rare
très
qu'on voit ça, là.
Écoute, je comprends que M. Melnyk a d'autres chats fouettés, là, qui est impliqué dans un paquet de chicanes à la maison, puis qu'il y a une poursuite de 700 millions qui commence à s'enclencher. Mais écoute, là, dans la position dans laquelle l'organisation se retrouve, avec l'année qu'il a vécue, il aurait fallu qu'il soit présent et qu'il représente l'organisation là-bas.
Écoute, entre toi et moi, c'est peut-être bon signe. Là. Peut-être qu'il est sur le point de prendre la porte de sortie, puis c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là-bas. Mais on verra. Hein. Le bon Dieu le sait, puis le diable sans doute.
Écoute, honnêtement, on ne sait plus ce qui se passe par rapport à la situation de propriétaire des Sénateurs. On verra comme ça.
Entre-temps, bon match ce soir, Sylvain.
Hey, merci, LP. Bonne soirée.
On te lit dans le droit demain. Merci.